Chapitre 11e. Dans un petit pays comme Ivranche, où chacun vit sous la surveillance policière de son voisin, les visites que Taro faisait tous les soirs à Hélène n'avaient pas pu passer inaperçues. Elles avaient été remarquées, observées et commentées. Qu'est-ce donc qu'il va faire tous les soirs chez la maîtresse d'école, le médecin ? Soigner sa grand-mère. On ne soignait pas les grand-mères de 8h à minuit. C'est plutôt l'heure de soigner les grandes filles. Dame, il est jeune, le médecin. Elle est jolie, la maîtresse d'école. Ma foi, ils ont bien raison. Quelle horreur! La curiosité excitée, on avait surveillé la maison. On s'était caché sous les voitures que le charron laissait toujours devant sa porte. On s'était embusqué derrière la pompe, derrière les arbres, dans les allées. Et l'on avait vu Taro sortir tous les soirs de chez la maîtresse d'école vers 10h. Et ce qui n'était pas moins significatif, on l'avait vu, au lieu de continuer son chemin pour rentrer chez lui, revenir sur ses pas et passer à plusieurs reprises devant l'école comme s'il avait plaisir à regarder la lumière de la chambre de l'institutrice. Quel tapage dans Ivranche ! Ce bruit était parvenu aux oreilles de M. Leberrier, dont l'amour-propre autant que la jalousie avait été indigné. Comment l'institutrice, son institutrice, se laissait faire la cour par Taro, qui restait en tête-à-tête avec elle pendant des soirées entières, tandis que lui pouvait à peine l'entretenir pendant quelques minutes. Lui préférerait-elle le médecin ? Ce serait fort, par exemple. Il avait fait son enquête, et il avait reconnu que ce qui d'abord lui avait paru invraisemblable était cependant vrai. Les apparences étaient telles qu'elle lui préférait le médecin. Heureusement, il n'avait qu'un mot à dire pour arrêter net cette liaison qui commençait, et il ne se gênerait pas pour le dire. Il était accouru à l'école au moment où la classe allait fermer. C'était le lendemain de la soirée où Taro avait pris Hélène dans ses bras, et celle-ci était encore sous l'influence du baiser qu'elle avait reçu et rendu, comme enivrée, comme affolée, charmée et confuse. Jamais la vue du notaire ne lui avait été plus répulsive. Cependant, elle tâcha de faire bonne contenance. « Vous voulez interroger les élèves ? » demanda-t-elle. « Non les élèves, mais vous, » dit-il à mi-voix. « Nous avons à causer. » Et tout de suite, il annonça que la classe était levée. Quand le brouhaha de la sortie fut calmé, il s'adossa à la chaire en prenant son air bonhomme et bienveillant, celui qui lui servait pour les contrats de mariage. « Ma chère enfant, » dit-il, « c'est dans votre intérêt que je viens vous entretenir. En ces derniers temps, vous avez reçu le docteur Taro, tous les soirs. »« Monsieur Taro vient voir ma grand-mère, » répondit Hélène en pâlissant. « Mais ce n'est pas pour votre grand-mère qu'il reste tous les soirs jusqu'à 10h, et même quelquefois plus tard avec vous. Cela fait bavarder. Et même, à dire vrai, cela cause un scandale. D'autant plus grand que... » Il fit une pause. « Que Taro est sur le point de se marier. » Hélène chancela. Pour ne pas tomber, elle dut s'appuyer contre le mur. Tout le monde connaît ce mariage, fixé au mois de septembre, après la moisson, avec la fille de riches herbagers de Clévilliers, laide en diable, mais qui aura bien 20 000 francs de rente un jour. On ne comprend donc pas l'assiduité de Taro auprès de vous, et les interprétations qu'on en tire sont des plus fâcheuses. Coupez donc court à ces visites, mon enfant, qui peuvent vous être agréables, je le comprends, et qui sont innocentes, j'en suis sûr, mais enfin... qui vous compromettent gravement et qui menacent votre position. Ce n'est pas le délégué cantonal qui vous parle, c'est l'ami. Un ami que vous trouverez toujours dévoué et que vous regretterez d'avoir méconnu. Je ne veux pas vous en dire davantage. » Sans ajouter un seul mot, il était sorti, laissant Hélène à ses réflexions. Il était temps, elle étouffait. La fille d'un riche herbager, 20 000 francs de rente, lui. Mais non. C'était une vengeance, une ruse du notaire. Elle serait coupable d'admettre que cela fût vrai. Ce serait un crime envers lui. Cependant, et jusqu'au soir, le cœur gonflé, le cerveau vide, enfiévré, affolé, elle s'était vainement efforcée de réfléchir et de raisonner. À 8h, Taro arriva comme à l'ordinaire, souriant, plein de joyeuse confiance. Comme à l'ordinaire aussi, il examina Madame Marguerite, mais plus rapidement, ayant hâte de se retrouver seule avec Hélène. Elle aussi avait hâte de se trouver seule avec lui, mais non pour les mêmes raisons. Lorsque la porte de la chambre de Madame Marguerite fut refermée, il vint à Hélène, les bras tendus, mais d'un geste de la main, elle l'arrêta. « Et quoi ? » dit-il. « Êtes-vous donc fâchée contre moi ? » ?»« Mais c'est le cœur qui m'a poussé vers vous, comme c'est votre cœur qui vous a mise entre mes bras. »« J'ai vu M. Leberrier aujourd'hui. » dit-elle, « il m'annonçait votre prochain mariage. » Le médecin, décontenancé, ne trouva rien à répondre. Il laissa tomber ses bras et inclina la tête. Hélène avait espéré qu'il se défendrait, qu'il protesterait. Ce silence et cette attitude l'écrasèrent. « C'est donc vrai, » murmura-t-elle, « votre silence et votre aveu. » Alors Taro comprit qu'il avait eu tort de ne pas parler, mais maintenant il était trop tard. Cependant, s'il ne pouvait plus nier, au moins pouvait-il encore se défendre, expliquer, plaider, il l'essaya. « C'est vraiment une triste chose que la vie, » dit-il. « N'est-il pas misérable et bête qu'on ne puisse jamais faire ce qu'on veut, ce que désire le cœur ou l'esprit, mais qu'il faille compter avec les intérêts et penser malgré soi au solide ? C'est que le sentiment et les affaires fondent, hélas. » Il fit une pause, embarrassé, mal à l'aise, honteux et furieux. Cependant, après ces maximes de philosophie générale, il fallait dire quelque chose de personnel et de précis. « Mon Dieu, » dit-il, « il est bien évident que si je vous avais connu avant d'arrêter ce mariage, je n'aurais jamais pensé à me marier avec cette jeune personne. Mais ce mariage est arrangé par mes parents et je ne puis le rompre. Il faut bien penser à l'avenir. Si la fortune ne donne pas le bonheur, elle donne la considération. Vous-même... » Elle l'interrompit d'un geste en lui montrant la porte. « Comprenez donc, » dit-il, « que mes sentiments sont aujourd'hui ce qu'ils étaient hier. C'est justement pour cela que nous ne devons plus nous voir. Mais je vous aimerai toujours, chère Hélène. » Elle marcha sur lui, il recula, mais arrivé à la porte, il s'arrêta. Alors, comme elle comprit qu'il ne voulait pas sortir, elle entra chez sa grand-mère, le laissant seul. Quelle nuit elle passa! C'était sa jeunesse qu'elle pleurait, sa foi dans l'amour, sa confiance dans l'honneur, ses illusions, ses espérances, ses croyances. Dans cet effondrement, rien ne restait debout autour d'elle. Cependant, le lendemain matin, elle descendit et fit sa classe. Elle marchait dans un rêve, mais avec une certaine lucidité somnambulique. Ce fut ainsi qu'elle remarqua l'absence d'une de ses élèves, une petite Anglaise. On lui dit qu'elle était malade. À la suspension de la classe, elle voulut l'aller voir. Ce lui serait une raison pour ne pas se mettre à table avec sa grand-mère et ses pensionnaires, ce qui lui eût été impossible. Il fallait qu'elle se secouât et fît effort pour réagir. Quand elle se présenta chez son élève, la mère de celle-ci accourut au-devant d'elle. « Je vous remercie bien d'être venue, mademoiselle, mais n'entrez pas. Rebecca a la petite vérole. Il ne faut pas qu'une belle personne comme vous s'expose à la gagner. » Hélène entra quand même. Que lui importait sa beauté maintenant? 8 jours après, elle se sentait prise de mal de cœur et de douleur dans les reins, de fièvre violente. Elle était obligée de s'aliter. « Surtout, ne faites pas venir un médecin, » dit-elle à sa grand-mère. Mais Madame Marguerite n'écouta pas cette recommandation. Le docteur Tarot l'avait sauvée. Ce fut le docteur Tarot qu'elle appela. Il accourut et constata la petite vérole. Le lendemain, les phénomènes d'invasion s'étaient manifestés avec une grande violence. C'était une variole confluente qui occupait la face, le cou, le haut du corps et les membranes muqueuses. Heureusement pour Hélène, elle était sans connaissance, passant du délire à l'assoupissement et de l'assoupissement au délire. La maladie fut grave, mais il ne se présenta pas de complications et elle suivit une marche régulière. Quand Hélène put se regarder dans son miroir, elle ne se reconnut pas. Son visage tuméfié n'était qu'une croûte brunâtre, un monstre. La maladie d'Hélène avait fait fermer l'école, et comme l'administration n'avait point envoyé de suppléante pour remplacer l'institutrice, les élèves, presque toutes, étaient entrées chez les sœurs, de sorte que quand Hélène avait pu reprendre sa classe, il ne lui était venu personne. « Voilà qui simplifie les choses, » dit le politique Bonneau. La lutte était impossible entre les sœurs. Elle cesse incidemment. Le principe de la laïcité est sauvé. C'était beau que le principe fût sauvé, mais cela ne suffisait pas à Hélène. Elle avait écrit à M. Malattiré pour lui exposer sa situation, et quelque temps après, elle avait reçu avis de sa nomination à la Fresnaye, le village d'où dépendait Courtomer, précisément. « Peut-être, et jusqu'à un certain point, lui disait l'inspecteur dans une lettre particulière, auriez-vous des raisons pour ne pas accepter un poste dans un pays où vous avez été en butte à des poursuites ?» Ici, il y avait une épithète qu'il avait soigneusement barrée pour ajouter au bout. « Que je ne peux pas qualifier. » Vous voyez que je sais tout. Si je ne vous disais que M. Guiscard de Courtemer a quitté le pays, qu'il s'est marié en Angleterre avec une femme peu recommandable, si j'ose m'exprimer ainsi, une écuyère de cirque pour tout dire, qui le cravache, raconte-t-on, et que sa famille plaide contre lui, demandant la nullité du mariage pour cause de clandestinité. Ce n'était pas seulement Guiscard qui l'avait poursuivi, mais Hélène n'eut qu'à regarder son miroir pour comprendre qu'elle n'avait rien à craindre du marquis de Courtemer, et elle accepta la Fresnaye, où elle alla s'établir avec sa grand-mère, heureuse de quitter Ivranche et de ne plus être exposée à rencontrer Tarot qui venait de se marier, ou le notaire qui détournait la tête quand ils se croisaient dans la rue. En arrivant à la Fresnaye, sa première visite fut Madame Courtemer, qui d'abord ne la reconnut pas. « Comment, ma pauvre enfant, c'est vous ?»« Que je suis heureuse de vous voir, je veux dire, de vous retrouver. Si la beauté du visage est fragile, celle de l'âme est éternelle, et celle-là vous est restée, j'en suis certaine. Vous viendrez me faire une petite visite de temps en temps. Nous parlerons de Monsieur le Comte, et vous surveillerez l'instruction d'Adélaïde. Venez avec moi, je vais vous conduire chez Monsieur le Marquis. » C'était une épreuve. Ce fut ce qu'Hélène avait prévu et même plus complète. En entrant dans le salon, elle trouva le marquis en tête-à-tête avec le comte Prêt-à-Boine. Ni l'un ni l'autre ne la reconnurent. Ce fut seulement quand la marquise l'eut nommée qu'ils la regardèrent avec un sentiment de répulsion. Il y a un an qu'elle est à la Fresnaye. Son école est à la tête de toutes celles de l'arrondissement. Elle a trouvé là ce que, depuis la mort de son père, elle demandait, sans l'espérer, la paix. Personne ne la regarde plus, personne ne s'occupe plus d'elle, elle gagne sa vie honnêtement. Ainsi s'achève Séduction d'Hector Malot.